On intitule ce nouvel épisode, le 17e déjà, Nantes, capitale convoitée. J'aimerais qu'on revienne sur ces rapports entre la Bretagne et la France. On sait que, bon, là, on a évité de peu la crise dynastique. François II est installé. Face à lui, il va y avoir un redoutable roi de France qui est Louis XI. Tous ceux qui connaissent l'histoire de France ont toujours entendu parler de ce roi. Alors, souvent controversé, il y a eu plein d'histoires. Mais Louis XI, il était un habile politique, puisque en 1475, notamment, il va commettre ou faire quelque chose qui va peut-être bouleverser la suite de l'histoire de la Bretagne.
Tout à fait, il va tout simplement racheter aux Penthièvres leurs droits, et donc ce fameux droit d'avoir un héritier mâle sur la couronne de Bretagne. Et il anticipe littéralement, parce qu'il voit bien que François II est duc depuis une vingtaine d'années. François II vieillit. Il n'a pas d'enfant. Du moins, il a eu des enfants avec sa maîtresse, mais il n'a pas d'enfant qui puisse avoir le titre. Et il se dit, au bout du compte, ben, moi, je suis l'héritier possible si je possède ce droit. Donc, ce droit, il le rachète, il le paye, je crois, 50 000 écus à l'époque. Enfin, je ne sais pas la somme en tête. Toujours est-il qu'il y a un peu une trahison des Penthièvres, mais il faut savoir aussi que les Penthièvres ont été mis dans une position un peu en porte-à-faux au XIVe siècle, puisqu'ils avaient des droits sur la couronne, on leur a retiré. Et donc, finalement, je crois que c'est Nicole de Penthièvre qui vend ce droit au roi de France. Le roi de France s'en servira si François II n'a pas d'enfant, et finalement le roi de France va mourir avant François II. François II aura des enfants, des filles, mais ce sera donc son fils qui s'en servira.
Oui, absolument. Et on connaît la grande rivalité qui a pu y avoir entre Louis XI et Charles le Téméraire.
Oui.
Moins peut-être ce qu'il y a pu avoir ensuite avec la Bretagne. Il n'y a jamais eu des tentatives de rapprochement entre la Bretagne et la Bourgogne?
Si, normalement ils étaient alliés, on va dire, de façon à ce que cette alliance leur donne suffisamment de force collective contre le roi. Mais en réalité, François II était un allié un peu fragile. Bon, le Téméraire était quand même un guerrier beaucoup plus coriace que François II. Et la mort du Téméraire a effectivement amené beaucoup de choses. Mais alors, il n'y a pas que la Bourgogne, il y a les Flandres. Enfin, c'est vraiment un ensemble. Il y avait une force aussi, une puissance politique beaucoup plus forte de ce côté-là. Lorsque François II va se retrouver tout seul, c'est-à-dire à partir de 1477, il va se retrouver le seul véritable grand prince à pouvoir contester le roi de France, et il va donc faire un peu appel à l'étranger. Mais c'était jamais bon d'avoir des soldats étrangers sur son territoire, et c'est ce qu'on verra dans les années 1480.
Alors 1477, c'est une date importante.
C'est la rupture,
parce que c'est la rupture, mais c'est la naissance aussi de l'âne.
Voilà, il y a d'un côté...
La
transition est faite, si ce n'est qu'il n'y a absolument aucun lien, et François II attendait un garçon, incontestablement.
Est-ce qu'on peut... Comment est la noblesse bretonne encore, comme on l'a vu au cours de cette histoire, partagée entre la France...
La noblesse bretonne.
En partie.
La noblesse bretonne, il ne faut pas se raconter trop d'histoires, la noblesse bretonne est très très partagée. Il y a les fidèles, il y a ceux qui font semblant d'être fidèles et qui trahissent en sous-main, et puis il y a carrément ceux qui ont pris le parti de la couronne de France. Il faut savoir également que beaucoup de grands nobles étaient possessionnés aussi bien du côté du duché que du côté du royaume. Ça crée une situation extrêmement compliquée.
Oui. On est obligé d'avancer, toujours assez vite. C'est aussi un changement d'époque. En matière économique et dans différents secteurs de la vie.
Tout à fait. On a d'abord sur le plan finalement de l'économie internationale, on voit beaucoup de choses qui changent. 1488, c'est le premier tour de l'Afrique par les navigateurs portugais, et c'est l'année de la mort de François II. L'imprimerie commence également à tourner beaucoup en Europe, et y compris en Bretagne. C'est sous François II que la première imprimerie est ouverte en Bretagne, c'est à Loudéac. Elle va suivre à Nantes assez rapidement. On est dans une période qui précède la Renaissance, et puis alors le trafic international, le commerce international, tout ça, ça change. Ainsi que l'armement, d'ailleurs, également, les armes échangent, se modifient avec des armes qui sont plus performantes, bien sûr. Donc on arrive vraiment à un grand changement d'époque, et puis également l'Église qui joue un rôle, est en perpétuelle évolution également. Et tout ça influe, effectivement.
Oui. Est-ce que on peut dire qu'à cette époque, Nantes est vraiment une capitale?
Oui, Nantes est une capitale. Il faut peser les mots. Nantes, c'est pas Venise, c'est pas Paris, ce n'est pas Londres. C'est la capitale d'un duché, tout simplement. Voilà, comme Nancy était la capitale du duché de Lorraine, par exemple. Mais c'est une capitale convoitée pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une ville, on va la considérer comme étant de la façade atlantique. À l'époque, les bateaux n'étaient pas si gros que ça, donc ils remontaient facilement jusqu'à Nantes. C'est une capitale convoitée tout simplement parce qu'il y a un souverain qui est installé là, et donc si on prend la ville, on prend le souverain, et qui prend la capitale prend le duché, hein, c'est aussi ça, c'est une partie d'échec quasi permanente que joue la noblesse. Et puis il y a également un développement économique qui n'est pas inintéressant.
Oui, mais c'est quand même pas, c'est pas une ville idyllique non plus, parce qu'il y a des problèmes, il y a des choses qui se passent, notamment peut-être dans des rapports avec l'Église.
Oui.
C'est une ville qui n'est pas forcément gagnante sur tous les plans.
Non, on n'est pas gagnant sur tous les plans. Disons tout simplement que plus le duc veut affirmer son pouvoir, plus il se fait d'ennemis, tout simplement. Alors effectivement, il s'est fait pas mal d'ennemis avec l'Église, et il faut vraiment attendre ce fameux évêque du Chaffaut dans les années 1480 pour mettre fin un peu au long conflit entre les... Mais c'est vieux, hein, c'est un conflit qui date du cœur du Moyen-Âge. Hein. Déjà au XIe, XIIe siècle, les ducs de Bretagne avaient du mal avec le pape, avaient du mal avec les évêques. Donc là-dessus, il y a rien de très très original. Et ce qui est vrai aussi, c'est que les héritiers de la couronne de Bretagne sont quand même recherchés, notamment on voit beaucoup de mariages avec roi d'Écosse, roi de France, enfin la famille du Luxembourg qui est une grande puissance, etc. Des mariages également qui nous amènent vers l'Espagne. Alors on le verra également avec Marguerite de Foix, la mère d'Anne de Bretagne, la seconde femme de François II.
Alors, on revient sur ce qu'on avait abordé dans l'épisode précédent sur cette guerre folle. Alors, est-ce qu'on peut dater tout ça, parler un peu des forces en présence
Tout à fait. On peut donner une date, hein, c'est 1485. Hein, 1485 est une année compliquée pour le duc de Bretagne. Cette guerre folle, c'est la guerre qui va opposer tout simplement l'armée du duc de Bretagne à l'armée du roi de France. Bon, le duc de Bretagne cache dans ses murs un prétendant à la couronne de France, hein, c'est Louis d'Orléans, d'ailleurs le futur Louis XII, qui est effectivement en opposition avec Charles VIII, le fils de Louis XI. C'est une période où la cour de Bretagne est quand même très fragilisée, puisque on voit même son grand argentier, hein, Pierre Landais, qui se fait prendre et condamné à mort et exécuté par finalement un véritable complot. Donc cette guerre qui commence en 1485 va amener sur le territoire de la Bretagne effectivement des soldats français, enfin des guerriers français, des guerriers bretons, mais également on va voir arriver entre 1485 et 1488 les Anglais, on va voir arriver les Espagnols. Ça va devenir une guerre internationale impopulaire.
L'histoire se répète, hein, on va le dire.
Voilà, l'histoire se répète, mais qui est-ce qui paye là-dedans? C'est le peuple. Toutes ces armées se nourrissent, hein, finalement sur le dos de la bête, et ça ne rend effectivement pas les dernières années du duc très sympathiques. Il le sent d'ailleurs très très bien, et c'est la raison pour laquelle il a fait couronner sa fille Anne, duchesse de Bretagne, alors qu'elle n'avait que 9 ans. Hein, la cérémonie a eu lieu à Rennes. Et Anne, qui est une duchesse très nantaise, qui a toujours vécu à Nantes, elle va donc à Rennes, qui est un peu l'autre capitale, comme on le sait, un peu de Bretagne. Elle est reconnue officiellement par les Bretons comme duchesse, mais le roi de France ne la reconnaît pas.
Bien sûr. Ouais. Donc, tu as abordé un peu, hein, que c'est les populations, hein, qui en pâtissaient, bien sûr. Alors, il y a des. On connaît en 1488 la fameuse bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, mais il y a eu d'autres batailles.
Oui, mais de toute façon, le roi de France, avec ses célèbres commandants, là, comme la Trémouille, tout cela, du côté breton, on a des gens qui trahissent, comme Rieux. Un coup, il est pour, un coup, il est contre, etc. Donc, ils sont déjà en France. Hein, c'est-à-dire, beaucoup de villes ont été touchées. Châteaubriand, Vitré, Fougères, Ancenis, etc. Donc le territoire de la guerre, c'est la Bretagne, et en permanence, le duc recule, tout simplement parce que ses ressources ne sont pas inépuisables, son armée n'est pas suffisante, et puis ses alliés sont un petit peu lents à intervenir. Il y a beaucoup de turbulences également en Angleterre, donc le roi d'Angleterre qui devait intervenir est assassiné, enfin bon, il y a plein de choses qui font que finalement sur ce territoire de la guerre, l'armée bretonne recule. Et lorsqu'on arrive à en découdre durant l'été 1488, la grande bataille qui a lieu à Saint-Aubin-du-Cormier, mais face à face, cette fois-ci deux armées un petit peu cosmopolites, l'armée du duc de Bretagne aurait le soleil dans les yeux puisqu'elle était effectivement à l'ouest, donc elle regardait vers l'est et la bataille se déroule le matin. Il va y avoir des milliers de morts, on peut considérer que plus de la moitié des guerriers bretons, ou en tout cas qui étaient appointés par le duc de Bretagne, sont tués. Et puis on amène beaucoup de blessés, enfin il va même y avoir un début de peste parmi les blessés dans la ville. Finalement la situation est catastrophique et c'est une réelle défaite pour le duc de Bretagne.